Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux.
Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos.
Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mandi.
Chenne Berry, Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. La sécurité dans les pays du Sahel, et plus particulièrement ici au Mali, c'est le double sujet que nous abordons dans le grand dialogue de ce mercredi. Un sujet qui préoccupe de plus en plus à tous les niveaux, précisément au niveau national, sous-régional et international. La sécurité, c'est donc une réalité indéniable aujourd'hui dans les pays du Sahel. En témoignent les multiples attaques terroristes enregistrées à Bamako, Ouagadougou et Grand Bassam en Côte d'Ivoire, et tout récemment donc une attaque qui a fait une trentaine de morts parmi les militaires nigériens. La situation est donc grave et il faut sans doute des mesures à la hauteur de sa gravité. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest l'aurait-elle finalement compris? Elle qui, lors de son sommet qui vient donc de s'achever à Dakar, a décidé d'envisager la création d'une force régionale antiterroriste. Y a-t-il des chances que cette volonté publiquement exprimée par le chef d'État de la sous-région se concrétise un jour? D'ailleurs, la CEDEAO n'est pas la seule institution à vouloir entreprendre quelque chose pour mieux sécuriser les pays du Sahel. Aux Nations Unies, on semble se faire de plus en plus de soucis pour le Mali, par exemple, où la situation ne cesse de se dégrader. En tout cas, c'est le numéro 1 même de l'ONU, Ban Ki-moon, qui est lui-même monté au créneau en plaidant pour un renforcement du mandat de l'aménagement. Que faut-il comprendre par ce renforcement? La communauté internationale est-elle réellement déterminée à s'engager pour trouver une solution à l'équation malienne? Qu'attend-on des autorités maliennes par rapport à la lutte contre le terrorisme et la sécurité? Donc, les interrogations, ça ne manque donc pas et ce n'est pas forcément le cas pour les réponses. Avec nos invités, nous allons tout de même tenter d'en avoir au maximum nos invités qui sont au nombre de trois. Le premier, c'est donc M. Cheikh Amadou Diouara, qui est journaliste et reporter de guerre. Il est ici présent dans ce studio. M. Diouara, bonsoir. En ligne, nous aurons André Bourgeot, le professeur André Bourgeot, professeur émérite, qui est directeur de recherche au CNRS à Paris. En ligne également, Baba Dakono, qui est donc chercheur et analyste dans ce studio pour la présentation. Moi-même, Seydou Fomba.
Le grand dialogue.
Auditrice, auditeur, bienvenue donc. La sécurité dans les pays du Sahel a dominé donc les travaux du sommet de la CEDEAO qui vient de s'achever à Dakar. Vous vous y attendiez certainement, mais comment appréciez-vous la manière dont les chefs d'État et de la communauté ont abordé le sujet? Je pose la question à Cheikh Amadou Diouara, qui est ici présent dans ce studio. Je rappelle qu'il est journaliste et reporter de guerre. Monsieur Diouara.
Bon, moi je pense que aujourd'hui c'est à la suite de la dégradation notoire de la situation face à la menace terroriste que les États ouest-africains ont finalement compris que ce problème est régional et qu'il faut prendre des mesures d'anticipation pour pouvoir y faire face. Bien avant les déclarations récentes de la mise en place d'une unité pour combattre le terrorisme, il y avait déjà la mise en place du concept stratégie ouest-africaine antiterroriste à Abuja en décembre 2015, qui a réuni pas mal de chercheurs, d'hommes de médias, etc., de spécialistes de la sécurité pour déjà une première ébauche de ce qui vient d'être finalement proposé à la rencontre de Dakar.
Alors, nous avons en ligne le professeur André Bourgeot. Monsieur Bourgeot, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, bonsoir. Oui, même de loin, vous avez dû quand même suivre un peu le résultat des travaux de la CEDEAO, ce sommet qui s'est donc déroulé à Dakar où la sécurité a donc dominé les travaux. Alors, dites-nous, la CEDEAO qui parle donc finalement de ce qui dit ce qu'on attendait un peu d'elle, à savoir qu'elle envisage la création d'une force, une force régionale pour faire face au terrorisme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, M. Bourgeot?
La première chose que j'en pense, c'est que la CEDEAO a fait le constat suivant, c'est que toutes les mesures sécuritaires qui ont été prises, soit par l'opération Serval transformée en Barkhane, soit par l'opération Minusma, a conduit à un échec, parce qu'on constate, c'est simplement un constat, que depuis à peu près un an et demi, en tout cas en ce qui concerne les groupes armés narco-djihadistes, qui étaient à l'origine évoluaient dans le septentrion malien, petit à petit se sont répandus sur l'ensemble du territoire malien et ont même dépassé les frontières de ce territoire pour intervenir au Burkina, en Mauritanie, ainsi qu'en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peu ça le constat que dresse la CEDEAO. Maintenant, la création d'une force transfrontalière, c'est quand même aussi une approche globale. Et les approches globales, on a vu que ce n'était pas toujours couronné de succès. Donc la question que je me pose est la suivante, c'est est-ce que l'on peut traiter le problème de la gestion des frontières dans une approche transfrontalière comme si toutes les frontières étaient identiques? Je ne le crois pas. C'est la raison pour laquelle je pense que, par exemple, je prends deux exemples, la frontière entre le Mali et le Niger n'est pas gérée de la même manière que la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ce n'est pas les mêmes produits non plus qui sont acheminés d'une manière transfrontalière. Donc la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à des modalités de gestion particulières des frontières dans une approche transfrontalière basée sur les produits qui sont acheminés. Ce n'est pas les mêmes produits qu'ils ont acheminés entre le Mali et puis le Burkina Faso, entre le Mali et puis la Mauritanie, entre le Mali et le Niger, et entre le Mali et l'Algérie. Donc la question que je me pose plus directement, est-ce qu'il ne faudrait pas, c'est une question en tout cas qui mérite réflexion, créer des sortes de comités, de coopératives de gestion par les populations frontalières de justement des nouvelles modalités de gestion des frontières. Donc une nouvelle organisation politique qui passerait par des comités de gestion, par des coopératives de gestion des frontières, par les populations. Je crois que si on ne s'appuie pas sur de nouvelles formes de gestion des frontières avec la participation des populations, je crains fort que les décisions de type global débouchent sur quelque chose encore qui ne conduira pas à une efficience des mesures prises.
Vous avez donc de sérieuses appréhensions?
Oui, j'ai des appréhensions au vu des expériences précédentes. À ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance, il n'y a eu des mesures exclusivement sécuritaires ne débouchent pas sur une sécurité. On le voit déjà depuis un an et demi. Donc il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'exclusivité des mesures sécuritaires deviennent inefficaces, ou en tout cas pas tellement efficaces. Donc il faut changer la conception et changer, encore une fois, les modalités de gestion des frontières, parce que ce n'est pas les mêmes frontières. On ne peut pas s'appuyer sur une conception étatique de la frontière. Bien sûr, elle existe, il ne s'agit pas de les nier. En revanche, il faut créer les conditions de l'adaptation de la gestion de ces frontières. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pose la question suivante, est-ce qu'il ne serait pas pertinent, sous quelle forme, je n'en sais rien, mais en tout cas réfléchir à la création de coopératives de gestion des frontières en fonction de leurs particularités, y compris à travers les particularités des produits qui sont acheminés. Parce que si on se focalise exclusivement sur les armées narco-djihadistes, c'est pas du tout non plus, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas du tout les mêmes manières, les mêmes outils qui sont utilisés que, par exemple, ceux qui acheminent la cocaïne ou la fraude alimentaire ou bien les drogues illicites telles que la cocaïne et que le cannabis. Donc je pense qu'il faut prendre en considération ces particularités-là. Particularité des produits, particularité des populations qui acheminent ces produits-là et particularité des populations frontalières.
Alors, nous avons Baba Dakono en ligne, il est chercheur et analyste. Monsieur Dakono, je vous pose la question suivante. Est-ce que, selon vous, les choses commencent à aller dans le bon sens au niveau sous-régional avec les conclusions de ce sommet de la CEDEAO qui s'est beaucoup intéressé aux questions sécuritaires et qui fait même des propositions concrètes? Alors, quelques difficultés avec Baba Dakono. Nous allons donc pouvoir le rejoindre dans quelques minutes, le temps que la ligne soit un peu plus, quand même, meilleure. Nous retournons donc dans ce studio pour retrouver Cheikh Amadou Diouara, qui est donc journaliste et reporter de guerre. Alors, Cheikh, vous l'avez dit, la CEDEAO qui envisage donc de créer une force sous-régionale antiterroriste. C'est quelque part, peut-être, c'est certainement une bonne chose, mais vouloir créer une force de ce genre, c'est une chose, et pouvoir concrétiser l'initiative en est une autre. La CEDEAO a-t-elle les moyens humains, financiers et matériels pour pouvoir concrétiser cette idée?
Les moyens humains, oui. Les moyens matériels, non, je ne pense pas. Mais je ne pense pas non plus que si jamais ils s'y mettent, ce ne serait pas à leur portée, parce que ce qui est sûr, la lutte antiterroriste n'est pas le problème d'une seule région. Si jamais la CEDEAO prend sérieusement l'initiative de s'impliquer, elle bénéficiera d'appui, de soutien. Je pense surtout la partie la plus importante de la lutte antiterroriste, c'est surtout les capacités d'anticipation, donc le renseignement. Et le renseignement, contrairement à ce qu'on peut penser, peut être souvent beaucoup plus, peut coûter beaucoup plus cher, peut être beaucoup plus difficile à organiser que même la guerre opérationnelle sur le terrain. Et je pense que c'est surtout de ça que nous avons besoin. Je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a quelques services de renseignement qui se sont avérés assez efficaces ces derniers temps dans la région, et je pense que je ne vais pas vous surprendre si je cite ceux du Mali qui ressortent dans la plupart des télégrammes, des rapports ces derniers temps, qui ont beaucoup surpris d'ailleurs par leur efficacité, non seulement par rapport à ce qu'ils font au Mali, mais surtout par rapport aux alertes qu'ils parviennent à donner, aux indications qu'ils parviennent à fournir à d'autres pays voisins, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina, qui a permis ces derniers temps pas mal de trac. Mais moi, ce que je voulais quand même préciser, c'est que il faut savoir que si la CEDEAO aujourd'hui demande ou décide finalement de mettre quelque chose comme ça en place, c'est que elle agit à un moment où elle a déjà laissé un peu le mal s'installer. Je pense que entre 2010 et 2012, à chaque fois que le président Amadou Toumani Touré à l'époque avait l'occasion, il ne manquait pas d'inviter ses pairs de la région de s'associer à lui, ou quand même de s'organiser pour faire face à ce problème. Et je pense qu'en ce moment, il ne le voyait pas comme ça. Il ne pensait vraiment pas que c'est un problème. Tout le monde pensait que c'était un problème qui était isolé quelque part dans le nord du Mali, et ou qui était un problème assez local. Personne, ou la plupart de ceux-ci, ne pensaient pas que c'était un problème qui pouvait arriver à un niveau où Abidjan ou Ouagadougou ou d'autres villes de la région pourraient être frappées en plein cœur. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé, et je pense qu'on prend de plus en plus conscience aujourd'hui de l'ampleur du phénomène, de son caractère beaucoup plus transversal. Et aujourd'hui, ce n'est pas des armées qui se font la guerre, c'est une menace asymétrique dont on ne sait pas d'où elle vient et qui peut frapper partout et à tout moment. Et je pense que c'est quand même à la suite d'une prise de conscience, mais surtout d'une grande inquiétude aujourd'hui, que la CEDEAO s'engage enfin.
Studio Tamani, 17h30, dans moins d'une minute, nous allons observer une courte pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La situation sécuritaire dans le Sahel et au Mali, c'est donc le double sujet qui est au menu du Grand Dialogue de ce mercredi. Nous en parlons avec trois invités, dont Cheikh Amadou Diouara, qui est journaliste et reporter de guerre. Il est ici présent dans ce studio. En ligne, nous avons le professeur André Bourgeot, qui est directeur de recherche au CNRS à Paris, et Baba Dakono, qui est chercheur analyste. À présent, nous allons donc joindre Baba Dakono. Dites-nous, monsieur Dakono, la question que je vous posais est la suivante. Avec cette annonce relative aux conclusions de ce sommet de Dakar, est-ce qu'on peut penser que les choses sont en train d'aller dans le bon sens en matière de lutte contre la corruption au niveau sous-régional? Pas la corruption, je veux dire le terrorisme.
Ok, merci beaucoup pour cette opportunité. J'espère que la qualité du réseau n'est pas...
Elle est pratiquement parfaite, vous pouvez y aller.
Okay, merci beaucoup. Voilà, donc ce que je disais, c'est que ce n'est pas nouveau depuis 2013 déjà avec la stratégie Sahel qui était en cours d'élaboration au niveau de la CEDEAO et qui était même suivie d'ailleurs, à la différence de beaucoup d'autres stratégies Sahel, d'un plan d'action, que la CEDEAO remette à jour cette question de force d'intervention rapide. Et le souci, c'est depuis que cette idée de force d'intervention rapide est née, c'est qu'on est chaque fois buté à un blocage, c'est celui du financement. Et jusqu'à présent, ce qui est encore proposé, les mécanismes de financement ne sont pas clairement endogènes, donc ils vont reposer sur d'autres sources de financement et qui peut constituer le souci et qui est à l'origine de l'inefficacité, si tant est de croire qu'il y a eu une efficacité au moment de la crise malienne, parce que la force africaine qui devrait être déployée n'a pu être déployée à temps, même si après la CEDEAO estime que c'est son intervention qui a permis tout de suite la mise en place de la MISMA. Donc en fait, de la crise malienne, on a compris toute la rivalité qui existe aujourd'hui entre l'Union africaine et la CEDEAO sur cette question justement de sécurité, de mise en place de forces d'intervention qui va aller au-delà des États. Et c'est justement soit une organisation régionale ou l'organisation africaine qui peut mettre en mouvement une telle sorte, un mouvement de cette envergure. Mais comme quelqu'un le disait tout à l'heure, la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas seulement des questions de sécurité. Aujourd'hui, on a parlé de frontières et il est important d'avoir cette perception des frontières comme d'abord des zones de vie. C'est la perception des communautés. La perception, on met des balises, on met des postes de contrôle, on met des frontières franches, n'existe que du point de vue sécuritaire. Et il est aujourd'hui important, surtout quand on se place sous l'angle de la lutte contre le terrorisme, de comprendre ces questions de frontières comme d'abord pour les communautés des espaces de vie. Donc d'intégrer dans toutes les stratégies qui comprennent une sorte de contrôle des frontières ou de surveillance des frontières dans le cadre de la lutte contre le terrorisme comme des zones d'abord de vie. Donc le concept sécurité, développement est encore davantage plus vrai quand on parle de la gestion de la sécurité aux frontières. Ils tentent de croire que la gestion de la sécurité aux frontières est un pas important dans ce dispositif de la CEDEAO. Parce que d'un point de vue sécuritaire, le plus gros blocage, c'est le droit de poursuite. Parce que quel que soit l'engagement des États aujourd'hui à lutter contre le terrorisme, à faire le partage de renseignements, à faire la collaboration, quand il y a cette question où on poursuit des individus, on arrive, on est buté au fait qu'on ne peut pas continuer la poursuite parce qu'on risque d'empiéter sur le territoire et il y a cette susceptibilité de souveraineté des États qui revient chaque fois à la question et qui empêche tout ça. Mais cela n'empêche pas d'aller sur d'autres, d'avancer dans d'autres domaines comme le domaine de la lutte contre la corruption. Et on sait qu'aujourd'hui, le problème terroriste, surtout au Mali, est très complexe et d'essayer de jouer sur les facteurs du terrorisme. On sait que la mauvaise gouvernance est l'un des facteurs qui aujourd'hui soutient le terrorisme. L'injustice sociale est l'un des facteurs aujourd'hui qui amplifie le terrorisme et qui favorise le terrorisme. Donc s'attaquer à ces facteurs dont les réponses ne sont pas forcément aujourd'hui sécuritaires. Et les réponses justement peuvent venir au niveau de l'organisation régionale qui est la CEDEAO, qui fondamentalement est une organisation économique, donc qui peut proposer des solutions qui peut facilement favoriser une meilleure gouvernance des ressources, un meilleur accès des citoyens à la justice et qui peut freiner l'expansion de ces groupes terroristes et en même temps essayer de pousser la mise en place de cette force d'intervention rapide qui, on en parle depuis déjà 3 ans, mais qui est butée à beaucoup de problèmes aujourd'hui.
Alors, nous allons donc à Paris pour retrouver le professeur André Bourgeot. Monsieur Bourgeot, alors, vous avez fait part de vos appréhensions, mais dites-nous, la CEDEAO qui veut donc créer cette force, vous pensez que c'est réaliste? Vous pensez que elle se montre certainement assez ambitieuse dans ce combat contre le terrorisme? Vous pensez que la CEDEAO a les moyens de ses ambitions?
je ne connais pas suffisamment les capacités de la CDAO pour savoir si elle a les moyens ou non, mais ce que je me permets de faire observer, c'est la chose suivante, c'est que quel est l'organisme international qui n'a pas une direction ou quelque chose qui va dans le sens de la lutte contre le terrorisme. Si je prends l'exemple du G5 Sahel, le G5 Sahel aussi lutte contre le terrorisme, l'Union africaine aussi, le Barkhane aussi, la MINUSMA aussi, donc l'ONU, et maintenant c'est la CDAO. Alors ça fait quand même beaucoup d'organismes qui luttent contre le terrorisme. Quelles sont les coordinations entre ces différents organismes internationaux? C'est une question que je me pose, parce qu'elle me paraît pertinente. Et puis par ailleurs, je crois que le problème de fond est le suivant, c'est que avoir une approche globale du terrorisme n'est pas une mauvaise chose en soi, mais si on n'articule pas, si on ne crée pas les conditions organiques, je dis organiques, entre le global et le local, ben on pourra toujours créer de nouveaux organes antiterroristes, ça ne diminuera pas sur grand chose d'important. Donc s'il n'y a pas une réflexion, je dis bien politique, entre comment articuler le global avec le local, c'est-à-dire aussi poser le problème en amont. Parce que le problème des transfrontaliers ne se pose pas exclusivement au niveau de la gestion des frontières. Ça se pose en amont. Et se poser en amont, ça veut dire qu'il faut avoir de nouveaux types d'approches, de nouveaux types de collaboration avec les populations. En amont, ça veut dire au niveau du local. Et s'il n'y a pas de réflexion approfondie sur les relations entre le global et le local, je crains que ça débouchera encore sur des choses qui ne vont pas aller dans le sens de l'éradication du terrorisme, d'une part. D'autre part, j'insiste sur ce que je disais au préalable, on ne peut pas appréhender la gestion des frontières de la même manière en fonction des produits qui sont transfrontaliers. Alors, c'est vrai que le terrorisme djihadiste, il a un aspect particulier, mais très très souvent, ce sont des groupes armés narco-djihadistes. Donc il n'y a pas une lutte au préalable et en amont contre le trafic de drogue, hein, qui est assuré pratiquement par tous les groupes armés dans le Sud-Sénégal, mais également aussi par les salafistes djihadistes. Donc c'est toute une réflexion qui, en définitive, relève d'une approche aussi géopolitique qui doit créer des conditions organiques, j'insiste sur cet aspect-là, donc structurelles entre le global et le local. C'est un vaste problème, mais si on ne l'appréhende pas en ce sens, je pense que ce sera encore de l'argent investi et qui débouchera sur quoi grand chose.
Retour dans ce studio pour donc retrouver Cheikh Amadou Diouara. Dites-nous, Monsieur Diouara, vous l'avez certainement appris il n'y a pas longtemps, il y a juste quelques jours, le Burkina Faso qui proposait une autre variante, à savoir déployer ses troupes au niveau de la frontière entre les deux pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle proposition?
Bon, là, je pense que c'est une action spontanée en réponse à une situation donnée, parce que vous savez, depuis quelque temps, le Burkina s'efforce à la frontière avec le Mali, issue quand même des attaques sporadiques qui viennent de certainement de l'autre côté de la frontière du Mali. Mais je pense que pour le cas spécifique du Burkina, le mal ne vient pas seulement de dehors, mais surtout dedans. Parce que depuis 2012, le Burkina, quand même avec les autorités qui étaient là à l'époque, dans leur stratégie de collaboration avec les groupes armés maliens, à savoir le MNLA, mais aussi Ansardine, a laissé quand même s'infiltrer sur son territoire pas mal d'hommes en armes, qu'ils soient rebelles ou qu'ils soient djihadistes. Et j'avoue que les relations entre le régime de l'époque et les groupes armés du Nord étaient de sorte à vraiment les permettre de pouvoir faire du Burkina comme une espèce de zone de repli. Donc ce qui a fait que le terrorisme a pu avoir un pied sur le territoire burkinabé et pouvoir aussi avoir un point focal, avoir un pied à terre sur le sol burkinabé et de pouvoir faire des actions. Donc il ne s'agit pas de déployer des troupes à la frontière, mais il s'agit surtout de travailler à l'intérieur du Burkina pour déjà combattre cette cellule qui existe déjà sur le sol burkinabé.
Nous avons quelques difficultés à joindre l'analyste, le chercheur Baba Dakono. Nous allons donc à Paris retrouver une fois de plus le professeur André Bourgeot. Alors, monsieur Bourgeot, vous savez qu'aux Nations Unies, on parle beaucoup de la situation sécuritaire dans le Sahel, particulièrement au Mali. Ban Ki-moon a assez évoqué la situation dans un rapport. Le secrétaire général de l'ONU exhorte le Conseil de sécurité à déployer 2500 hommes supplémentaires au Mali. Ne peut-on pas s'inspirer donc, par exemple, de l'exemple de la MONUSCO en RDC? On sait que la SADC avait été quand même mise à contribution. Est-ce qu'on ne peut pas tenter la même chose avec la CEDEAO?
Non, on peut toujours tenter, hein. Je crois que, est-ce que le problème se pose en ces termes? J'observe la chose suivante, c'est que la CEDEAO, j'ai pas de compétences particulières, mais je pense que la CEDEAO relève du droit international, donc du multilatéralisme. Et le multilatéralisme, toujours beaucoup de difficultés à s'exercer, à s'appliquer, parce que c'est le droit international qui est souverain. Donc ça repose le problème suivant, c'est les conditions d'articulation entre les souverainetés national, qui eux relèvent du droit national, de la Constitution, et puis des relations avec un droit international qui est souverain. Je dis bien qu'il est souverain. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver les moyens de combiner à la fois l'approche multilatérale avec une approche bilatérale? Tout à l'heure, le précédent intervenant faisait référence avec le Burkina. Je crois avoir lu, il y a déjà 2 ou 3 mois, qu'il y avait une sorte de traité, je ne sais pas si le terme est correct, de traité, mais enfin, un comité qui s'est mis en place, un comité officiel qui s'est mis en place entre le Mali et le Burkina, justement pour lutter contre le terrorisme. Il y avait aussi cette proposition émanant des Ivoiriens, cette fois-ci, auprès du Mali, pour créer ce même type de relations. Donc, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas retourner aussi, de combiner d'une manière structurelle les relations bilatérales avec la relation multilatérale? Je voudrais poursuivre ce que je disais tout à l'heure à propos des organismes internationaux, des instances internationales qui luttent contre le terrorisme. Vous avez la CEDEAO, vous avez l'Union africaine, vous avez le G5 Sahel. Sauf erreur de ma part, l'Algérie n'est pas dans le G5 Sahel. Or, on sait bien quand même qu'une grande partie des éléments salafistes et djihadistes proviennent d'Algérie. C'est aussi la même chose avec la Libye. Donc, vous voyez, il y a quand même des distorsions entre les espaces géographiques contrôlés ou sur lesquels interviennent toutes les instances internationales. Et j'observe que l'Algérie n'est pas là. La Libye n'est pas là, le Maroc non plus, parce qu'ils n'appartiennent pas aux mêmes instances, aux mêmes organisations internationales. Donc ça pose quand même problème, parce qu'il ne faut pas élargir, et s'il faut élargir, eh ben, ça peut passer par des relations bilatérales, plus particulièrement entre le Mali et l'Algérie, parce qu'il y a quand même 1400 km de frontières communes. La même chose,
Professeur Bourgeot, on sait quand même que les Nations Unies jouent un rôle important dans des pays comme le Mali. Alors, Ban Ki-moon qui parle de renforcement du mandat de l'aménagement, n'est-ce pas là une nécessité?
Oui, mais si le renforcement de l'aménagement, est-ce que ça intègre tous les types de trafic, y compris les salafistes djihadistes avec l'Algérie? Le renforcement, je veux bien, si c'est un renforcement de type quantitatif, c'est pas non plus une extension en termes d'espace géographique. C'est ça qui est inquiétant. D'où, peut-être, pour éviter ce genre de choses, puisque c'est quand même le droit international qui dirige, de combiner, mais ça relève des politiques nationales, de combiner à la fois les rapports bilatéraux avec les rapports multilatéraux.
Alors, nous avons
sur le local. Parce que ces populations-là, quelles que soient les frontières que vous prenez, ce sont des populations que l'on retrouve dans les pays frontaliers, de chaque côté des frontières.
Alors, nous avons des difficultés à joindre toujours Baba Dakono, notre chercheur analyste. Nous espérons que cela va s'arranger dans quelques minutes. Nous venons donc à vous, Cheikh Amadou Diouara. Cheikh Amadou Diouara, les Nations Unies au Mali, on en parle depuis fort longtemps, notamment à l'aménagement. Vous savez que lors de son sommet, la CEDEAO a exhorté les Nations Unies à prendre des mesures nécessaires pour renforcer les mandats de l'aménagement. Elle est allée d'ailleurs plus loin, la CEDEAO, elle allait plus loin en exhortant l'ONU à doter l'AMUNISMA des moyens d'équipement adéquats en vue d'éteindre de l'adopter au contexte sécuritaire qui menace donc la paix et la sécurité de l'ensemble de la région. Est-ce que la CEDEAO ne touche pas ici du doigt le fond du problème?
Non seulement elle touche ici le problème du fond du doigt, mais d'abord le problème d'équipement. Mais il n'y a pas un sérieux problème d'équipement. La MINUSMA, j'avoue qu'elle est, elle est bien équipée quand on voit les contingents suédois, néerlandais, allemands, bientôt, qui sont là avec, ils ont une capacité militaire, ils ont une capacité d'intervention, ils ont une capacité logistique énorme pour faire face aux problèmes. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense que il y a un problème qui est là. Il y a un guet-apens qui se pose aujourd'hui par rapport à la lutte antiterroriste au Mali. L'AMUNISMA a un mandat, comme on le sait, qui ne le permet pas de faire ce qu'il doit pouvoir faire de façon opérationnelle pour lutter contre le terrorisme. Plusieurs responsables précédents de l'AMUNISMA ont saisi les Nations Unies, le Conseil de sécurité, pour demander un mandat plus efficace pour pouvoir lutter de façon opérationnelle contre le terrorisme. Et à chaque fois que ces requêtes sont allées aux Nations Unies, la réponse est que il y a l'opération Barkhane qui est mandatée pour lutter contre le terrorisme de façon opérationnelle au Mali. Et c'est ce qui fait le blocage. Donc il y a un blocage qui est là, qu'il faut effectivement passer par des plaidoyers, des lobbies comme ce que la CEDEAO vient de faire pour pouvoir lever ça. Parce que l'opération Barkhane a le mandat pour lutter contre le terrorisme de façon opérationnelle, mais est-ce qu'elle est en train de faire ce qu'elle devrait vraiment faire pour en finir? Moi, je pense que c'est pas envoyer 2000. Même si on double ou on triple aujourd'hui les effectifs de l'AMUNISMA, ça ne va absolument rien changer tant qu'ils n'auront pas le mandat nécessaire qu'il leur faut de façon opérationnelle pour mener cette lutte. Et ça, je pense qu'il faut quand même qu'on se dise la vérité de façon claire, qu'il y a un blocage au niveau du Conseil de sécurité de la part de la France à travers le fait que le mandat de lutter de façon opérationnelle contre le terrorisme est exclusivement réservé à l'opération Barkhane.
Alors, nous avons à présent Baba Dakono en ligne. Dites-nous, monsieur Dakono, quand la CEDEAO exhorte, en fait, adresse quand même des messages assez forts cette fois-ci aux Nations Unies, et le président burkinabé, je dois le rappeler, est allé même plus loin, lui, monsieur Kaboré, a parlé de la nécessité pour l'AMUNISMA de rehausser le niveau de ses compétences pour qu'elle puisse passer, donc, je cite, à des actes d'attaque et non simplement de sécurisation. Qu'est-ce que vous en pensez?
On a beaucoup parlé de mandat de l'AMUNISMA, c'est vrai, mais ce qu'il faut savoir, c'est que fondamentalement, cette mission des Nations Unies, c'est une mission de maintien de la paix. Je crois qu'il y a eu encore, il y a eu déjà plusieurs débats sur le mandat de l'AMUNISMA. Aujourd'hui, l'incompétence en tout cas de l'AMUNISMA qui est soulignée par certains politiques africains. Mais ce qui est important de dire, et c'est un constat désolant, mais aujourd'hui, la MINUSMA n'a pas les moyens elle-même d'assurer la sécurité de la mission elle-même. C'est-à-dire aujourd'hui, la MINUSMA cherche à avoir les moyens pour assurer la sécurité de la mission elle-même, ce qu'elle ne parvient pas à faire. C'est qu'il faut attirer l'attention aujourd'hui sur le fait que ce n'est pas les populations de Gao, de Tombouctou ou de Kamp du pays, mais aujourd'hui, la MINUSMA peine à assurer la sécurité de ses propres éléments aujourd'hui, civils ou militaires. Donc, qu'on sorte aujourd'hui du discours creux de on va augmenter le nombre d'effectifs militaires.
Monsieur Dakono, Ban Ki-moon parle quand même d'une force d'intervention rapide et des renforcements des moyens de protection des convois.
Pardon, je n'ai pas bien entendu.
Je dis que Ban Ki-moon évoque le renforcement, la nécessité de créer une force d'intervention rapide et de renforcer les moyens de protection des convois.
C'est oui, nécessaire. Mais encore, on est encore dans le débat tel qu'on voit. On est encore dans la protection aujourd'hui de la MINUSMA elle-même. Tout de suite, j'étais au fin fond du Mali où on a posé la question à quelqu'un. Aujourd'hui, est-ce que la personne pense que la MINUSMA peut résoudre le problème malien? La personne qui n'est pas allée à l'école et qui ne semble pas être au courant des choses, la réponse est toute simple. La MINUSMA ne pourra pas. C'est un processus politique qui peut résoudre le problème aujourd'hui au Mali et non une mission de sécurisation telle qu'on est en train de le penser. C'est ce que vous venez de dire de la part de Ban Ki-moon. Rappelle encore que la MINUSMA aujourd'hui cherche à rentrer dans les moyens de son rôle d'abord, avant de pouvoir assumer et assurer ce rôle aujourd'hui.
Alors, nous avons le professeur en ligne, le professeur André Bourgeot. Alors, vous l'avez suivi avec nous, les messages que la CEDEAO adresse aux Nations Unies par rapport donc à la mission de la MINUSMA. Vous en savez déjà quelque chose. Alors, ces appels adressés donc à l'ONU, c'est quelque chose de légitime, non, de la part de la CEDEAO?
Oui, enfin, encore une fois, au risque de me répéter, c'est pas le renforcement de mesures exclusivement sécuritaires qui vont résoudre le problème. Les mesures sécuritaires ont déjà été prises. Et donc là, on dit que c'est un problème d'ordre quantitatif, il faut renforcer les choses. Je pense pas que la lutte contre le terrorisme passe uniquement par des mesures d'ordre sécuritaire. Tout à l'heure, un intervenant critiquait l'opération Barkhane à juste titre. Mais il n'y a pas que Barkhane qui lutte contre le terrorisme, vous avez aussi le G5 Sahel. Quelles sont les relations entre le G5 Sahel et puis Barkhane pour la lutte contre le terrorisme? C'est une question qui me paraît pertinente. C'est une des raisons pour laquelle j'insiste un peu sur le fait qu'il y a plusieurs organismes internationaux qui luttent contre le terrorisme et qui, en définitive, ça ne débouche pas sur grand-chose. Donc, est-ce qu'il ne faut pas repenser la lutte contre le terrorisme à travers ces aspects transfrontaliers, avec une approche géopolitique qui combine aussi le problème des politiques locales. Si on n'a pas une approche, j'allais dire, anthropologique de la gestion des frontières en amont, je crains fort que rajouter 2000 militaires à la MINUSMA avec des moyens de protection des convois, etc., ne débouche pas sur grand-chose. D'autant que, en ce qui concerne les groupes armés narco-djihadistes, ils ont fait leur démonstration de leur capacité d'adaptation aux nouvelles mesures sécuritaires. Depuis le début, on le voit très bien. Donc, face à ça, ils trouveront aussi de nouvelles mesures pour attaquer. Ce sera peut-être plus des mines, ce sera autre chose. Donc, je pense, au risque d'insister, c'est que ce ne sont pas des mesures exclusivement sécuritaires qui vont pouvoir éradiquer les pratiques terroristes.
Douara Cheikh Amadou, je rappelle que vous êtes journaliste et reporter de guerre. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU examinera le 29 juin prochain les recommandations de Ban Ki-moon pour la mission des Nations Unies au Mali. C'est avant de procéder d'ailleurs au renouvellement à cette même date du mandat de l'MINUSMA pour une période d'1 an. Doit-on s'attendre à quelque chose de nouveau lors de ce renouvellement?
Moi, je ne m'attends pas à une décision qui viendrait bouleverser des situations. Je ne m'y attends pas. Je pense que, d'abord, il ne faut pas qu'on oublie que les opérations Serval et Barkhane, qui sont françaises, portent la mention des Nations Unies. C'est des missions qui ont quand même été autorisées aux Nations Unies. Et d'ailleurs, il faut le préciser, quand le Mali a écrit à la France pour demander une aide, la lettre avait été retournée pour que le Mali reprenne et le faire passer sous le mandat des Nations Unies. Cela est assez important. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les tentatives, Mungi a fait plusieurs tentatives et à chaque fois qu'il y a des tentatives, on dit non, il y a déjà une opération de lutte contre le terrorisme sous mandat des Nations Unies. Donc, la MINUSMA, nous voulons qu'elle reste une mission de stabilisation. Donc, si on revient avec l'argument, les mêmes Nations Unies, parce que quand même, le bureau du secrétaire général et le Conseil de sécurité, ça fait deux choses assez différentes. Moi, je ne pense pas que le Conseil de sécurité est dans cette logique. Parce que la France, qui est quand même chef d'orchestre de tout ça, je ne pense pas qu'elle est dans une logique aujourd'hui de partager de façon opérationnelle la lutte antiterroriste. Et aujourd'hui, la preuve est que le G5 Sahel reste quand même excusez-moi, un club de présidents pour se retrouver, parler. Nous avons des officiers supérieurs qui se retrouvent, des chefs d'état-major qui se retrouvent, qui parlent, mais il n'y a rien de véritablement opérationnel sur le terrain. ils n'ont pas les moyens de faire cette lutte. Les bailleurs qui sont censés, parce que les bailleurs se retrouvent toujours être aussi ces pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc ça bloque. Moi, je pense que c'est pas un problème d'effectif ou de moyens, c'est surtout un problème de lobby, un problème de décision, un problème d'influence politique, et je pense que c'est à ce niveau que ça doit se gérer.
Alors, nous retrouvons donc Baba Dakono. Alors, Monsieur Dakono, cette date du 21 juin, c'est quand même une date importante que nous, Mali, en tout cas, on va beaucoup s'intéresser à cette date pour la simple raison que c'est ce jour que on va procéder au niveau des Nations Unies au renouvellement du mandat de l'AMINUSMA. Alors, pour vous, ça va se passer comme les autres fois? Ah, Monsieur Dakono n'est donc pas en ligne. Nous allons à Paris retrouver le professeur émérite André Bourgeau, qui est le directeur de recherche donc au CNRS à Paris. Monsieur Bourgeau, le renouvellement du mandat de l'AMINUSMA, c'est donc le 25 juin. Ça sera donc après l'examen des recommandations de Ban Ki-moon pour la mission des Nations Unies au Mali. Vous, comment est-ce que vous voyez cette date? Comment voyez-vous ce renouvellement? Est-ce que ça vous attendez à un changement par rapport au mandat de l'AMINUSMA?
Lorsque j'étais à Bamako, mais j'en suis pas sûr, c'est la raison pour laquelle je vais être très prudent dans ma formulation, j'avais entendu sur une radio que l'AMINUSMA dressait un bilan de ses activités depuis le début de l'existence de l'AMINUSMA jusqu'à maintenant, prenant en compte les critiques qui avaient été adressées d'ici de là. Donc je ne sais pas si effectivement c'est vrai, mais si c'est vrai, ça veut dire que ça augure de quelque chose qui irait dans un sens beaucoup plus positif. Reste à savoir quel est le contenu de ce bilan. Est-ce que c'est un bilan critique, légitimé, objectif, qui reconnaîtrait les erreurs passées et que face à ces erreurs-là, de nouvelles propositions seraient faites et des propositions autres que des propositions de nature quantitative? Si c'est ça, ça veut dire qu'il y aurait une amélioration et qu'il y aurait une cellule au sein de l'AMINUSMA qui réfléchirait d'une manière beaucoup plus politique que sécuritaire. Donc c'est un petit peu difficile de vous répondre.
Oui, mais on dit que ce serait un mandat quand même beaucoup plus robuste. Comment est-ce que vous comprenez cela?
Oui, mais robuste. C'est robuste. Est-ce que ça veut dire des gros bras avec des gros muscles? Si c'est des gros bras et des gros muscles, c'est des mesures exclusivement sécuritaires. Et on a bien vu, encore une fois, au lieu de le répéter, c'est que les mesures sécuritaires sont largement insuffisantes. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il dresse un bilan objectif avec des critiques. Après tout, reconnaître des erreurs, c'est aussi glorieux que de reconnaître des erreurs. Et est-ce que ça permettrait d'élaborer une nouvelle feuille de route? C'est ça ma question. Et moi, je n'ai pas d'élément de réponse parce que je ne connais pas le contenu de ce rapport qui fait le bilan, si toutefois il existe. Mais ce que je souhaite ardemment, c'est qu'effectivement, ils prennent en considération une approche qui combinerait à la fois le géopolitique, parce que ce n'est pas simplement militaire. Le problème de la sécurité n'est pas réductible à des problèmes d'ordre militaire. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'un élargissement au niveau du concept, au niveau de la réflexion, de combiner, encore une fois, parce que l'AMINUSMA, elle est sur le terrain, on voit bien, les attaques se font sur les antennes de l'AMINUSMA, à Gao ou autre part. Donc, que fait l'AMINUSMA dans ses rapports avec les populations? Est-ce qu'il y a une volonté politique de la part de l'ONU de dire mais il faut changer de comportement, changer de psychologie, j'allais dire, donc prendre en considération toutes les transformations actuellement en œuvre et encore une fois prendre en considération l'immense capacité d'adaptation des groupes armés narco-djihadistes qui ont des stratégies d'adaptation redoutables.
Alors, nous avons juste une minute que nous allons donc donner à vous, Baba Dakono, puisqu'on vient de pouvoir vous joindre. Dites-nous, Monsieur Dakono, ces renouvellements, comment s'annonce-t-il pour vous, les renouvellements du mandat de l'AMINUSMA? Alors, je crois qu'avec Dakono, ce n'est toujours pas très clair. Avec vous donc, Cheikh Amadou Diouara, le mot de la fin.
Le mot de la fin, pour moi, c'est que les Maliens saisissent qui de droit en termes surtout de lobby, qu'on renforce le lobby politique pour parvenir à convaincre les membres du Conseil de sécurité pour un vote favorable pour que l'AMINUSMA ait enfin le mandat opérationnel de lutter contre le terrorisme et que Barkhane joue plus franc jeu.
Vous êtes tout de même optimiste alors.
Non, moi je ne suis pas optimiste à ce niveau. Je pense qu'il faut d'abord parvenir à convaincre les pays membres du Conseil de sécurité ou faire des lobbies auprès de d'autres pays qui pourront être plus influents que la France pour que finalement nous puissions avoir les mesures adaptées. Parce que la stratégie française, je pense que c'est celle qui nous bloque.
C'est sur ces propos que s'achève donc le grand dialogue de ce mercredi. Je rappelle que le sujet du jour était la situation sécuritaire dans le Sahel et au Mali. On prépare donc à l'émission le professeur émérite André Bourgeot, qui est directeur de recherche au CNRS à Paris. Nous avions Baba Dakono, chercheur analyste, et Cheikh Amadou Diouara, qui est donc journaliste. Il est reporter de guerre. Il est journaliste tout simplement, on va le dire. C'est donc tout. Nous avons à la mise en onde Gagné Kanté. Régie vidéo Salim Odiouara, réalisation Ousmane Djadje Touré. À la présentation, il y avait Seydou Fomba. On se retrouve donc demain pour un autre sujet. À demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kanfoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Beri, Haloud Mouli.
Chienne Beri, Sigi Kanfoba.